Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Ils l'ont vécu. 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl. Deuxième épisode, déflagration et sidération. Anatoly Diatlov, ingénieur en chef adjoint de la centrale.
L'enquête menée par la suite a montré que le réacteur a explosé à cause du système d'arrêt d'urgence. Autrement dit, ce système a cette fois-là fait office de détonateur d'une bombe atomique. C'est paradoxal. C'est difficile à concevoir. Mais c'est ainsi. C'est à ce moment-là que l'explosion a eu lieu.
1h, 23 minutes, 46 secondes.
La nuit de l'accident, 26 avril, je travaillais sur la station de refroidissement.
Nikolai Bondarenko, liquidateur de la catastrophe, c'est-à-dire mobilisé pour limiter les dégâts au lendemain de l'explosion.
Cette nuit-là, j'étais de service et nous avons pris notre poste à minuit. L'accident est arrivé à 1h23.
Allô Ivankova, nous avons besoin de vous à Pripyat. Le toit des réacteurs 3 et 4 est en train de brûler. Allô, la caserne 242, où est l'incendie? Il y a une explosion entre les réacteurs 3 et 4. Il y a des gens à l'intérieur? Oui, on sonne l'alarme. Je vais prévenir toutes les casernes.
Au début, on a entendu comme des rugissements souterrains. Ensuite, le plancher s'est mis à gondoler, puis il s'est soulevé d'une trentaine, peut-être une quarantaine de centimètres. Plus tard, à travers la coupole de verre au-dessus de nous, j'ai vu qu'il y avait eu une explosion. Une explosion rougeâtre. Et après encore 5, 6 secondes, une seconde explosion s'est produite. Mais celle-là, elle était blanche, comme un flash de photo. Nous avons continué à travailler jusqu'à midi.
Pour moi, c'était comme une frappe puissante qui a fait trembler tout le bâtiment. J'ai levé les yeux au plafond, dont des morceaux nous tombaient sur la tête. Et une ou peut-être deux secondes plus tard, une deuxième explosion a eu lieu. Plein de signaux d'alerte se sont mis à clignoter. La lumière s'est éteinte et quelques instants plus tard s'est rallumée. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il s'était passé quelque chose avec les dégazeurs, situés juste au-dessus de la salle de contrôle. Les dégazeurs sont de gros contenants partiellement remplis d'eau et de vapeur. Comme l'explosion a été très puissante, je me suis dit que de l'eau chaude déferlerait d'en haut sur le tableau de contrôle du réacteur.
On a eu un phénomène de criticité.
Jean-Claude Zerbib, ingénieur en radioprotection.
C'est-à-dire qu'on a eu une montée très puissante du nombre de neutrons formés. C'était si puissant que le combustible a explosé. Et donc, il s'est transformé en petite poussière extrêmement chaude au contact de l'eau. Et c'est ça qui a donné l'explosion de vapeur. L'explosion de vapeur, c'est celle que l'on craint le plus. On n'a pas eu une explosion nucléaire. On a eu d'abord un accident de criticité et la violence du flux atteint a broyé, mais littéralement broyé, le combustible. Il a broyé aussi le zirconium, c'est le métal qui entoure le combustible. Et le zirconium a des réactions très violentes avec l'eau et fabrique de l'hydrogène. Et c'est cette libération de l'hydrogène qui probablement a donné la deuxième explosion. C'est une énergie fabuleuse. Ceux qui parlent de l'explosion de vapeur, ils disent que si on met sur une plaque de métal chaude 1 litre d'eau, c'est l'équivalent d'un kilo de TNT. Ça vous donne une idée de l'énergie puissante de ces explosions de vapeur. C'est celles qui sont les plus préoccupantes dans un réacteur nucléaire.
Piotr Palamarchuk, chef de laboratoire de l'entreprise chargée de la mise en service de Tchernobyl.
Исчезло освещение, питание, оборудование было остановлено, связи.
Il n'y avait plus d'éclairage ni d'électricité. Les appareils se sont éteints. La communication téléphonique a été coupée. En peu de temps, le personnel technique a rétabli la communication, l'éclairage de secours et a entrepris de localiser l'accident.
Extrait du livre de Grigory Medvedev.
Près de 50 tonnes de combustible nucléaire se sont évaporées pour être pulvérisées dans l'atmosphère par l'explosion sous forme de particules finement dispersées. Bioxyde d'uranium, radionucléides de haute activité, iode-131, plutonium-239, neptunium-139, césium-137, strontium-90 et d'autres isotopes radioactifs ayant une durée de vie plus ou moins longue. L'explosion latérale a également touché 70 autres tonnes de combustible situées dans la périphérie du cœur, projetant les matériaux de construction sur le toit du poste de dégazage et de la salle des machines de la tranche numéro 4 et aux alentours de la centrale. L'activité du combustible rejeté a atteint 15 à 20 000 röntgen par heure. Les vapeurs émanant du combustible ont formé dans l'atmosphère une poche d'aérosol de haute activité, particulièrement dense et intense en rayonnement, dans la tranche accidentée et dans toute la centrale. Vite remplie, cette poche s'est enflée concentriquement et a été emportée par le vent qui lui a insufflé la forme d'une énorme fleur radioactive et maléfique. À peu près 50 tonnes de combustible nucléaire et environ 800 tonnes de graphite sont restées dans le cœur du réacteur, formant un entonnoir semblable au cratère d'un volcan. Le graphite du réacteur a entièrement brûlé les jours suivants. Pour bien évaluer l'ampleur du rejet radioactif, rappelons que la bombe atomique d'Hiroshima a rejeté 4,5 tonnes de substances radioactives dans l'atmosphère. Le réacteur de la tranche numéro 4 de Tchernobyl a propulsé dans l'atmosphère 50 tonnes de combustible évaporé, créant ainsi une énorme poche de radionucléides de longue durée de vie. C'est-à-dire l'équivalent de 10 bombes d'Hiroshima sans les effets immédiats, plus 70 tonnes de combustible et environ 700 tonnes de graphite radioactif qui se sont déposées autour de la tranche accidentée.
Anatoly Diatlov.
Несмотря на то, что обесточены были муфты управления стержнями,
malgré le fait que les barres d'arrêt d'urgence avaient coupé l'alimentation des accouplements de contrôle, elles ont été bloquées dans une position intermédiaire, abaissée de 2,5-3 mètres. J'ai immédiatement dit à Kudryavtsev et Proskouryakov de courir dans la salle centrale et d'abaisser manuellement les barres de contrôle. Dès qu'ils sont partis, j'ai compris que c'était un ordre stupide, inutile. Ils ne pourraient pas y aller, de toute façon. Je suis tout de suite sorti dans le couloir, mais il n'y était déjà plus. Le personnel technique a fait tout son possible après l'accident, mais malheureusement, pour bon nombre d'entre eux, ça a été fatal.
Piotr Palamarchuk.
En sortant de la salle de contrôle, j'ai vu des panneaux tomber, de la vapeur, de l'eau, de la poussière tout autour. L'alarme de sécurité s'était déclenchée à cause du niveau élevé de radiation. Je n'avais pas mis de masque car il n'y en avait pas. Avec mon chef, nous sommes partis à la recherche de notre coéquipier, Vladimir Nikolaïevitch Shashenok, qui se trouvait du côté du réacteur.
Shashenok лежал на полу, весь мокрый.
Les couloirs étaient encombrés, il n'y avait presque aucun éclairage, mais nous l'avons trouvé. Shashenok était étendu au sol, tout trempé, rouge, apparemment brûlé, il ne pouvait pas bouger. Nous l'avons soulevé, mis sur mon dos, et à travers un couloir étroit, nous nous sommes dirigés vers la sortie.
Le matin, Chachenok était déjà mort. C'était déjà la deuxième victime. La première, c'était Valery Rodenchuk, l'opérateur des pompes de circulation principales. Au moment de l'explosion, il a été enseveli sous les structures qui se sont effondrées. Et on ne l'a jamais retrouvé. Il repose dans le bâtiment du réacteur.
Tous les gens sérieux conviennent que rien, aucune enceinte de confinement aurait tenu à l'explosion que l'on a connue. Il faut se rappeler quand même qu'elle a arraché une dalle de béton de 2000 tonnes. Elle est montée à 14 mètres de haut et elle est retombée et elle s'est enquillée dans le cœur du réacteur. C'est plus de 100 kilotonnes.
Extrait du livre de Grigory Medvedev.
Témoignage de Nikolai Fyodorovitch Gorbatchenko, chargé du service de radioprotection. Au moment de l'explosion, je me trouvais dans les locaux du tableau de dosimétrie. Plusieurs secousses d'une force terrible ont eu lieu. J'ai cru que c'était la fin. Mais non, j'étais bien en vie, je tenais sur mes pieds. J'ai ouvert la porte qui donnait sur le couloir du dégazeur, d'où s'élevaient des tourbillons de poussière blanche et de vapeur. Les éclairs des décharges retentissaient, ça court-circuitait. Les panneaux de la tranche numéro 4 s'éteignirent immédiatement et cessèrent de fonctionner. Je suis alors allé à la salle de commande voir Akimov. Tout au long du chemin, l'indicateur de mon dosimètre butait à l'extrémité de son échelle de mesure, à savoir 1000 micro-röntgens par seconde. Il y avait probablement 4 röntgens par heure. On pouvait donc travailler pendant environ 5 heures.
Aucun dosimètre ne peut mesurer le niveau réel de radioactivité dans la centrale à ce moment-là. Leurs valeurs maximales sont trop faibles. Ce sont donc des chiffres nettement sous-estimés qui seront transmis aux autorités nucléaires durant les premières heures de la catastrophe. Piotr Palamarchuk.
Au début, je me sentais bien, le temps d'emmener Chachenok au centre de soins. Ensuite, je suis allée me changer, me laver, et c'est sous la douche que j'ai eu la nausée et des vomissements. À peu près une heure et demie après, je me sentais extrêmement faible, j'avais mal à la tête et j'avais la nausée. Bien entendu, on m'a emmenée au centre de soins. Et le lendemain, on m'a envoyée à Moscou, à l'hôpital numéro 6.
Témoignage de Petrov, chef de service du matériel à Yujatom Energomontage. Je suis arrivé à Pripyat vers 2h30 du matin en venant du nord-ouest. Dès la gare de Yanov, j'ai aperçu le feu au-dessus de la tranche numéro 4. Je me rappelle nettement que les flammes s'élevaient au-dessus de la cheminée de ventilation, c'est-à-dire qu'elles atteignaient 170 mètres de hauteur. Je me suis approché du chantier et me suis arrêté à environ 100 mètres du bord de la tranche accidentée. Dans la lumière de l'incendie tout proche, j'ai vu que le bâtiment était à moitié détruit. Le hall central et les locaux des séparateurs n'existaient plus et les séparateurs projetaient à distance et émettaient des lueurs rougeâtres. J'étais sans voix. L'odeur était celle qui suit une forte décharge d'éclairs. Mes yeux me brûlaient, ma gorge se desséchait. Je toussais à m'en étouffer. Les silhouettes des pompiers scintillaient dans les tourbillons de flammes et de fumée et les lances à incendie s'agitaient au-dessus des véhicules. Un pompier s'est hissé sur le toit de la tour B à plus de 70 mètres pour observer le réacteur et coordonner les actions de ses camarades qui se trouvaient sur le toit de la salle des machines.
2h30.
Viktor Bryukhanov, directeur général de la centrale, arrive à la salle de commande du réacteur numéro 4. Sous l'effet conjugué de la sidération, de l'incrédulité et de la panique, personne ne peut admettre que le réacteur a explosé. Il doit être intact, il faut le refroidir, y injecter de l'eau. Mais les tuyauteries se sont rompues sous l'effet de l'explosion et l'eau qui coule sur les débris nucléaires noie les installations électriques inférieures, menaçant de couper l'alimentation des autres réacteurs.
Témoignage d'Alfa Fyodorovna Martinova, la femme de Marie-Yin, responsable du secteur de l'énergie nucléaire au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. À 3h du matin, le téléphone a sonné. C'était Bryukhanov de Tchernobyl. Une fois la conversation terminée, mon mari m'a dit qu'un terrible accident s'était produit à Tchernobyl, mais que le réacteur était intact. Il s'est habillé à toute allure et, avant de partir, a téléphoné à ses supérieurs hiérarchiques, à la direction principale du parti. Il a d'abord appelé Frolichev, qui a contacté Dolgir. Dolgir a contacté Gorbatchev et les membres du Politburo.
4h du matin.
Fomine, l'ingénieur en chef, arrive à la salle de commande. Bryukhanov reçoit de Moscou l'ordre suivant. Continuer de refroidir le réacteur. La peau brunie par les radiations, le personnel de la centrale tente de juguler la catastrophe.
On aurait dû être relevé, mais le KGB avait déjà tout bloqué.
Nikolai Bondarenko.
Et l'équipe de relève n'a pas pu arriver. Alors le responsable du contrôle dosimétrique est venu vers nous et il nous a dit « Les gars ici, vous prenez du 40 rengen par heure, je n'ai pas le droit de vous laisser entrer. » Mais lorsque l'ingénieur de service a rappelé le responsable de la centrale, quand il a dit que le chef dosimétriste ne voulait pas nous laisser entrer, là le responsable a dit « Je ne peux pas vous obliger à y aller, mais je vous le demande, parce que le troisième réacteur ne peut pas fonctionner sans l'azote pour le refroidissement. » Et j'y ai passé 20 heures. À partir du 28 avril, j'étais en réanimation. Le 5 mai, on m'a fait une transfusion sanguine. Le 8 mai, j'ai subi une transplantation de la moelle osseuse. Après la réanimation, j'ai dû rester longtemps dans une chambre isolée et on disait de moi, peut-être qu'il survivra, peut-être pas.
Samedi 26 avril.
Plus d'une centaine de personnes se trouvent déjà au centre médical. Une cellule de crise s'envole de Moscou tôt dans la matinée pour déterminer la situation réelle et préparer l'arrivée de la commission gouvernementale. Au même moment, Pripyat s'éveille.
Témoignage de Ludmila Alexandrovna Karitonova, ingénieure principale à l'entreprise de construction de la centrale de Tchernobyl. Le samedi 26 avril 1986, tout le monde se préparait déjà aux fêtes du 1er mai. C'était une belle journée de printemps, tranquille, ensoleillée. Les jardins étaient en fleurs. Le matin, j'avais fait ma lessive et j'avais étendu le linge sur le balcon. Le soir, des millions de radionucléides s'y étaient déjà accumulés. La majorité des travailleurs de l'entreprise ne savaient pas encore exactement ce qui s'était passé. On a ensuite parlé d'un accident et d'un incendie à la tranche numéro 4, mais personne n'avait de détails. Les enfants sont allés à l'école, les plus petits ont joué dans les cours, dans les bacs à sable, ont fait du vélo. Dans la soirée du 26 avril, leurs cheveux et leurs vêtements étaient déjà très radioactifs, mais nous n'en savions rien.
On évacue enfin Pripyat le 27 avril grâce à 1100 bus affrétés dans la nuit. Les villes et villages environnants devront attendre quelques jours de plus.
À 20 km de Tchernobyl, il y a le village Ilitsy.
Anna Lavrentieva, originaire de la région de Tchernobyl.
Où ont vécu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, donc toute la descendance côté maternelle. Au moment de la catastrophe, ma mère, elle était chez ses parents parce que c'était la période où il fallait planter les pommes de terre. Et donc, elle est venue donner un coup de main à ses parents. Et donc, le jour de la catastrophe, ils ont passé toute la journée dehors. Le lendemain également, et c'est que 3-4 jours après qu'il y a commencé à avoir en fait des rumeurs, les gens ils en parlaient, les habitants du village, qu'il y a eu un incendie à la centrale. Mais ni à la télé, ni à la radio, les gens ils ont eu aucune information. Et il y a que 4 jours après qu'il y a eu les policiers, les militaires qui ont commencé à arriver dans les villages et dire aux gens qu'il y a eu l'incendie, il y a eu la radioactivité qui est sortie de la centrale, donc c'est dangereux de rester dans cette zone-là, près de Tchernobyl, et il fallait les évacuer.
Camarades, il est recommandé de prendre sur vous vos papiers d'identité et le strict minimum, ainsi que quelques denrées alimentaires. Tout en laissant temporairement vos habitations, veuillez s'il vous plaît ne pas oublier de fermer les fenêtres et de couper l'électricité, le gaz, de même que les robinets d'eau. S'il vous plaît, restez calme et organisé durant l'exécution de cette évacuation temporaire.
Il y a des gens qui ne sont plus jamais revenus. Ils sont partis pour quelques jours, mais c'était pour l'éternité.
À suivre, choc mondial et course contre l'atome.